Jean-Paul Durand, vous êtes dominicain, vous êtes aussi professeur de droit canon. Si vous regardez un petit peu en arrière, vous avez des fils rouges, j'imagine, qui traversent toutes vos activités.
Je dirais que, mais ce sont peut-être des trop grands mots, mais ils ne sont jamais usables, c'est le rapport entre la justice et la charité. Parce que je crois beaucoup à la dimension éthique, la dimension médiation, dialogue, relation de proches. Mais il est un moment où la nécessité d'y voir clair demande que justice soit faite. Simplement, souvent, cette justice-là est là pour image de marque, d'être procédurière, éventuellement d'être transformée tout simplement en une évaluation financière de dommages et intérêts. Dans certains pays, le grand challenge, le grand défi, c'est combien avez-vous obtenu de dommages et intérêts, pas tellement est-ce que vous avez vraiment su ce qui s'est passé et quelle a été vraiment la vérité de l'affaire. Donc la tâche de justice peut aussi glisser vers l'immoralité à la limite, hein. Mais charité et justice pour moi sont des dimensions qui connotent à la vérité, qui donnent à la vérité une dimension plus humaine. Et je travaille en ce moment un projet de livre sur un terme qui n'est pas très communicable, l'épiquie. C'est simplement de dire en communion avec l'Église que dans un certain nombre de domaines, eh bien, je ne suis pas capable de suivre tout à fait ce que l'Église me demande et je demande miséricorde. Cette dimension d'épiquie est une tradition dans l'Église que j'essaie de réapprofondir et je découvre que cette dimension, c'est une manière de, non pas de relativiser la vérité ou la norme, mais c'est une réalité de la présence entre le pécheur et non pas une norme abstraite, mais le Christ, loi vivante. Et donc l'épiquie, c'est en fait la redécouverte d'un dialogue avec soi-même et avec le Christ sur ce chemin de vérité, de justice et de charité, qui, parce qu'ils sont mis en relation, sont autre chose que d'être simplement en règle ou d'être en infraction, alors que place aussi au débat, à l'échange contradictoire, à la possibilité pour l'autre qu'on n'a pas compris de s'expliquer et d'être jugé également en fonction de règles préétablies et non pas à la tête du client ou selon, je dirais, la fureur du moment. La justice, c'est pas un lynchage. La justice, c'est un moment où on confronte ce qui s'est passé à ce que on a compris de ce qu'est le projet de l'homme, de ce qu'est la relation au bien, la relation au mal. Et donc, cette dimension de justice m'a toujours beaucoup mobilisé.
Comment est-ce que l'Église peut aujourd'hui offrir des lieux d'écoute, de compassion, de miséricorde?
Dans le code de droit canonique que Jean-Paul II a promulgué en 1983, il a invité chaque conférence des évêques à être dotée d'instances de conseil et de médiation pour préparer la tâche de justice comme chemin de l'exercice même de la charité. La charité, évidemment, va bien plus profondément que ce que cherche la tâche de justice, mais elle passe par la tâche de justice. Et par conséquent, il faut que l'Église soit dotée de lieux qui donnent, je dirais même de manière plus familière, les règles du jeu, si vous voulez. On ne peut pas simplement faire se balancer sur la tête des personnes des épées de Damoclès. Et je le dis précisément parce qu'il m'est arrivé, justement, comme canoniste, d'avoir à régler, à accompagner des conflits graves dans des œuvres catholiques, par exemple, où le dirigeant d'une œuvre catholique découvre après coup qu'en réalité, être dirigeant d'une œuvre, ça demande tel ou tel type de comportement, tel ou tel type d'adhésion, tel ou tel type de fidélité, qu'il n'avait peut-être pas mesuré ou qui ne lui avait pas été suffisamment dite, ce qui fait qu'on a des œuvres catholiques qui, quelquefois, ça se demande si elles sont encore catholiques ou si elles sont animées encore d'une manière chrétienne. Et lorsque le conflit est très grave, on retire la lettre de mission, retire la responsabilité à ce dirigeant, cet animateur, ce directeur. Simplement, est-ce qu'on lui avait vraiment expliqué sa mission? Est-ce qu'on l'avait invité pour le brio respectable de sa technicité, mais aussi pour sa manière de vivre, pour sa manière d'être et pour son adhésion ou au moins son respect de ce qu'on appelle techniquement le caractère propre catholique d'une école privée, ce qui est quand même pas rien. Et ce qui veut dire que, d'ailleurs, la preuve, c'est que quand des parents musulmans confient à une école catholique leurs enfants, c'est parce qu'ils savent que ces enfants seront respectés. Donc, ils ont compris, en fait, l'essentiel du caractère propre.
Jean-Paul Durand, vous êtes aussi sollicité souvent, je crois, dans les rapports entre religion et État.
je suis effectivement, parmi d'autres experts, quelquefois engagé dans des consultations comme technicien des rapports entre les églises et, ou les religions et les États. J'ai souvenance, parce que je crois que cet épisode est un peu typique, d'avoir un jour été contacté par l'ambassade du Japon parce qu'un professeur de Tokyo, de droit, venait enquêter sur comment les différents États européens évoluent dans leur régulation de la liberté de religion. Or, le Japon avait quelques difficultés à s'approprier ce qui avait été décidé à la fin de la guerre, à savoir ce qui avait été décidé par MacArthur, qui avait complètement changé l'administration d'État japonaise et qui avait donc dû changer aussi le rapport entre l'État japonais et le phénomène religieux, ce qui est extrêmement difficile quand on connaît les rapports de civilisation entre religion et identité nippone. Eh bien, un jour, j'ai eu la visite de ce professeur, évidemment avec une traductrice de l'ambassade du Japon, et il venait enquêter auprès de différents pays d'Europe, chez des chercheurs, pour réfléchir à une doctrine d'administration, une philosophie de l'administration qui soit adaptée à un phénomène de plus en plus pluraliste, une plus en plus diversifié des présences religieuses sur un même territoire, ce que le Japon n'est pas sans connaître non plus.
Alors justement, parlez-nous un peu de ces rapports entre État et religion au niveau du droit.
Par exemple, j'ai eu à diriger, avec une co-direction d'ailleurs de deux spécialistes de ces régions, heureusement, deux thèses sur des phénomènes en Inde. L'une par un jeune chercheur qui est prêtre tamoul de rite latin, catholique, ancien avocat lui-même. Sa thèse porte sur se convertir et convertir en Inde. Quand on sait la difficulté de l'Union indienne d'être à la fois un pays non confessionnel et d'assumer la prégnance hindoue qui a la conviction que naître en Inde, c'est être forcément hindou, ça conduit à des difficultés. Mais la plupart des États de l'Union indienne ont trouvé des modalités d'équilibre. Il y a quelques exceptions graves, il y a quelques drames réels, des tensions préoccupantes, mais un énorme effort a eu lieu pour trouver des mœurs justement de relations entre l'État de l'Union indienne qui s'est voulu moderne et puis la grande présence hindoue, mais aussi la présence musulmane, car tout le monde musulman n'est pas allé dans ce qu'on a appelé le nouveau Pakistan, qui a été créé à ce moment-là, à l'époque de la création de l'Union indienne. Et puis des autres réalités comme les sikhs, les différentes églises chrétiennes, etc.
Mais dites-nous un peu plus les enjeux.
Les enjeux, c'est d'abord comment les catholiques et les chrétiens en Inde, eux-mêmes, ont vécu le Concile Vatican II pour apprendre à mieux vivre de la liberté de religieuse pour se l'appliquer à eux-mêmes et pour la partager avec les co-religionnaires ou les membres d'autres religions dans leur propre pays. Et c'est très très important parce que vous pouvez avoir un phénomène très traditionnaliste parmi nos communautés qui ne facilite pas par un communautarisme refermé sur lui-même le dialogue avec les autres communautés. Donc il y a un apprentissage d'un vivre ensemble qui est au cœur même de Gaudium et Spes et qui n'est pas passé du jour au lendemain dans les mœurs chrétiennes dans les différents pays du monde, y compris en Inde. L'autre étudiant dont j'ai dirigé la thèse a travaillé sur qu'est-ce que ça veut dire que d'être une minorité catholique dans un pays qui à la fois essaie d'être, je dirais, d'une certaine laïcité et en même temps qui ne peut pas ne pas donner une place tout à fait particulière à l'hindouisme. Et le Concile lui-même répond à cela en disant qu'il peut y avoir dans le monde des communautés religieuses qui soient privilégiées par une nation ou un État, à condition, dit le Concile, que ça ne discrimine pas les autres religions, les autres groupements de conviction et autres églises. Eh bien, comment dire et vivre cela soi-même comme catholique le jour où on est d'une communauté catholique minoritaire dans un pays donné? Voilà le travail du canoniste au milieu des différentes églises chrétiennes, des différentes réalités religieuses de son pays.
Quel est son pouvoir d'action au canoniste?
Alors c'est un pouvoir là surtout d'abord de formation et puis quelquefois de médiateur. Et enfin, et c'est le cas en particulier de l'un et l'autre de mes nouveaux jeunes docteurs, c'est d'être membre de ce qu'on appelle le tribunal ecclésiastique de l'évêque, où ils ont donc à aider l'évêque dans l'une des composantes de l'exercice de sa responsabilité, à savoir la composante de justice. Car l'évêque a aussi une tâche de justice qui n'est pas une justice parallèle par rapport à la justice des États, qui est la justice en propre sur des questions où seule la religion a compétence et qui ne peuvent pas être simplement remplacées par l'arrangement moral, mais qui doit supposer une procédure, qui doit proposer un droit de la défense, qui doit supposer donc des clarifications un peu formelles, mais qui ne sont pas formalistes, qui sont un chemin d'humanisation là où il peut y avoir un chaos et beaucoup d'arbitraire.
Donc finalement, le droit canon, c'est cette espèce de fondement absolument indispensable et qui permet aussi une meilleure gestion du gouvernement.
C'est une langue de la charité, c'est un langage, c'est une grammaire, c'est un langage commun, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien celui qui a la responsabilité et celui qui simplement y coopère ou obéit ou y participe. Ils peuvent adhérer à la même grammaire, c'est-à-dire qu'ils savent quelles sont les conditions dans lesquelles leurs responsabilités vont s'exercer. On n'est pas là dans l'arbitraire et l'imprévisible. Ce n'est pas parce qu'on a une visée religieuse que nous serions dans une mystique qui ne prendrait pas assez en compte la corporéité, la temporalité, les distances d'altérité nécessaires afin qu'il y ait vraiment et effectivement un respect des personnes et des institutions.